Bonjour à tous, bienvenue dans Parole protestante. C'est l'émission de l'Église protestante unie de Corse. C'est Christiane Jo qui vous parle. Je suis contente de vous retrouver, comme d'habitude. Je le dis toujours, mais bon, c'est parce que c'est vrai. Et d'autant que nous allons continuer à nous promener dans le livre d'Amos, en compagnie de notre pasteur, Marie-Odile Wilson. Bonjour Marie-Odile.
Bonjour Christiane, bonjour à tout le monde. Alors, eh bien, nous continuons donc avec notre prophète hein, qui nous secoue un peu. Et donc, au chapitre 3, nous allons commencer par les versets 3 à 8.
Deux hommes vont-ils ensemble s'ils ne se sont pas concertés? Un lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Un lionceau donne-t-il de la voix dans sa tanière s'il n'a pas fait de capture? Un oiseau tombe-t-il à terre sur un piège sans qu'il y ait un appât? Un piège se soulève-t-il du sol sans avoir fait de capture? Si le cor retentit dans une ville, le peuple n'a-t-il pas été alarmé? S'il arrive malheur dans une ville, n'est-ce pas le Seigneur qui l'a fait? Car le Seigneur Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Un lion a rugi, qui ne craindrait? Le Seigneur Dieu a parlé, qui ne prophétiserait?
Voilà, alors c'est une partie un peu particulière hein, qui emprunte un langage qui est celui de la littérature de sagesse. Alors on a 7 questions qui sont posées, qui sont toutes construites sur le même principe et qui reviennent finalement à des constatations. On pourrait dire par exemple, bien sûr que quand le lion rugit, c'est qu'il a une proie, etc. Donc chacune de ces questions nous oblige à dire si, bien sûr. Donc c'est une manière de nous faire comprendre quelque chose, une forme d'insistance qui nous conduira à comprendre tout de suite la 8e question au verset 8. Eh bien, s'il y a prophète et prophétie, bien sûr, il y a Dieu qui se manifeste. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, tout ça pour nous amener à ça, quoi. Donc, avec différents exemples, on l'a entendu. De la vie un peu du monde de l'époque quoi, même si chez nous il n'y a pas beaucoup de lions, mais par là-bas oui.
Non.
Alors au verset 7, littéralement on pouvait dire il ne fera pas mon Seigneur Adonai une parole, et il se trouve que le mot parole en hébreu ne se limite pas à ce qui est dit, justement. La parole, on le sait, elle est performatrice pour Dieu. Dieu dit et cela se fait en même temps, quoi. Il n'y a pas de chronologie là-dedans. Donc, dans cette optique-là, tout événement qui révèle quelque chose de Dieu, toute intervention de sa part dans l'histoire est donc une parole. Donc, ce n'est pas forcément un mot, mais... ouais, quelque chose qui dit Dieu quand même.
Ouais.
Et donc, Dieu, avant d'agir, nous dit Amos, se concerte avec ses serviteurs, les prophètes. Et on peut voir quelque chose du genre dans le livre des Proverbes, au chapitre 15, le verset 22.
Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers.
Donc là, on a la question de on se concerte, on réfléchit, ça on le voit beaucoup dans la Bible. Je pense là à Job et enfin à Dieu et c'est tout son environnement dans l'histoire de Job. Enfin voilà, il y a de temps en temps comme ça des délibérations divines qui se font. Et donc pour éviter les actes irréfléchis, il arrive même que Dieu délibère avec lui-même avant d'agir. Et on ne peut pas se prévaloir de faire partie de son conseil. Alors justement, chez Job, on a au chapitre 15, le verset 8, par exemple.
As-tu reçu les confidences de Dieu? As-tu dérobé la sagesse à ton profit?
Oui, alors ça, effectivement, difficile à le dire, à le prétendre en tout cas. Et puis chez Jérémie, au chapitre 23, le verset 18.
Alors, le verset 18. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole ? Qui a prêté l'oreille à sa parole ? Qui l'a entendue ?
Oui, voilà. Donc, on peut pas dire soi-même. Moi, je sais ce que Dieu veut. Y a beaucoup d'ironie hein, dans ces questions, que ce soit chez Job comme chez Jérémie. On voit bien, Dieu, en gros, qui es-tu pour prétendre savoir ce que je dois faire et ce qui va se passer, quoi. Mais quand même, il met ses prophètes dans la confidence. Ses prophètes, ceux qu'il choisit, mais pas les faux prophètes. Hein, donc on peut aller voir toujours dans Jérémie, un peu plus loin que le verset qu'on vient de lire. Donc au chapitre 23, toujours les versets 21 et 22.
Alors, excusez-moi un petit instant. Voilà, Jérémie, donc.
23, versets 21 et 22.
S'ils n'avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leur action.
Donc ça, les prophètes, ils ont cette capacité-là, du coup, hein, de pouvoir, en tout cas, faire ce qu'il faut pour essayer de faire revenir, et c'est ce que va faire Amos, hein, dans le Nouveau Testament, eh bien, cette transmission, on le sait, elle va se faire du père au fils, puis du fils à ses disciples. On voit ça dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, le verset 8.
Que les paroles que je leur ai données sont celles que tu m'as données.
Voilà.
Ils les ont reçues.
Hein?
Oui, voilà.
On a le fils qui dit aux disciples ce que lui-même a reçu du père. Et les disciples ensuite vont transmettre ces paroles à l'Église. Et l'Église va nous les transmettre. On voit ça dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, les versets 3 à 6.
Alors, au chapitre 3, les versets 3 à 6. Alors, vous pouvez constater en me lisant quelle intelligence est du mystère du Christ. Ce mystère, Dieu ne l'a-t-il pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il vient de le révéler maintenant par l'Esprit et ses saints apôtres et prophètes ? Et les païens sont admis au même héritage, membres du même corps, associés à la même promesse en Jésus-Christ, par le moyen de l'Évangile.
Voilà, donc là, la transmission, on la voit, elle est plus détaillée, plus large, et elle s'étend sur plus de temps, mais voilà. Donc, quand Dieu décide que ça se sache, ça se sait. Et donc, oui. De même qu'en résumé, que quand un lion rugit, la peur est de mise, et bien quand Dieu se manifeste, le prophète ne peut faire autrement que prophétiser, même si parfois ils essayent de se sauver, hein, comme Jonas, ou en disant que, comme Jérémie ou comme Moïse, non, bah ça va pas, je suis trop jeune ou je suis pas bon pour ça, on peut pas faire autrement, quoi. Hein, donc il y a quelque chose qui se passe. Alors on va continuer. Donc, toujours dans notre chapitre 3 d'Amos, les versets 9 à 11.
Clamez sur les palais dans Ashdod, sur les palais dans le pays d'Égypte, et dites : Assemblez-vous sur les montagnes de Samarie, voyez quel amas de désordre en son sein, quelles oppressions au milieu d'elles. Ils n'ont pas le sens de l'action droite, ces entasseurs de violence et de rapine dans leur palais. Oracle du Seigneur. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Dieu, l'ennemi encerclera le pays, on te dépouillera de ta puissance et tes palais seront pillés.
Voilà, alors une fois justifié donc par toutes ces questions, la nécessité pour Amos de parler, comment ferait-il autrement ? Et nous voilà donc repartis sur un oracle contre Samarie et on retrouve des choses qu'on a déjà entendues. Et là, Amos fait appel au pays qui entoure Samarie pour assister au procès que Dieu va intenter à son peuple. Ashdod, bien c'est une ville de Philistie, l'Égypte aussi est interpellée et ils sont cités comme témoins qui s'installent finalement pour regarder ce qui va se passer. Et Dieu met à jour l'iniquité d'Israël. On en revient finalement l'iniquité sociale. Hein, on en revient toujours au même thème. Et ces pays, donc ces pays voisins, assisteront aussi au châtiment. Donc Samarie, on le sait, c'est le nom de la capitale du royaume du Nord et elle est installée sur une colline. Alors on peut aller voir éventuellement la fondation de Samarie, enfin comme capitale, dans le premier livre des Rois, au chapitre 16, le verset 24.
Il acheta de Shémer la montagne de Samarie pour 2 talents d'argent. Il bâtit sur la montagne et il donna à la ville qu'il bâtit le nom de Samarie, d'après le nom de Shémer, seigneur de la montagne.
Voilà, alors donc, au temps d'Amos, Samarie, c'est une ville et sur une montagne, sur une colline. Plus tard, les Assyriens vont étendre ce nom à toute la région qui l'entoure et d'où le pluriel, les montagnes de Samarie. Selon les manuscrits, on trouve la montagne ou les montagnes. Au verset 10, littéralement, ils ne savent pas faire ce qui va droit en avant. Hein. Alors le constat est sans appel, ils ont complètement, les braves samaritains, perdu le sens de la morale, de la droiture, avec cette expression assez parlante, ces entasseurs de violence et de rapine dans leur palais. Je trouve que cette traduction est tout à fait parlante, ces entasseurs de violence et de rapine. Et ouais. Ces deux termes, violence et rapine, vont souvent de pair. Et les gens de Samarie en abusent finalement. Ils en font un mode de fonctionnement habituel puisqu'ils entassent. C'est toujours pareil. Depuis le début, on voit bien, c'est pas tant la manière d'agir, mais c'est le fait. Trop, c'est trop, quoi. Il y a un moment où c'est plus envisageable, c'est plus écoutable. Et ce type de fonctionnement, donc il parle de violence et de rapine, est souvent dénoncé par les prophètes. On peut, par exemple, aller voir chez Jérémie, toujours lui, qui a pas mal dénoncé de choses, au chapitre 6, les versets 6 et 7.
Car ainsi parle l'Éternel des armées. Abattez les arbres, élevez des terrasses contre Jérusalem. C'est la ville qui doit être châtiée. Et il n'y a qu'une oppression au milieu d'elle. Comme un puits fait jaillir ses eaux, ainsi elle fait jaillir sa méchanceté. Il n'est bruit en son sein que de violence et de ruine. Sans cesse à mes regards se frôle la douleur et les plaies.
Voilà, donc là, c'est Jérusalem qui est visé chez Jérémie. Oui. On peut aller voir chez Ézéchiel, au chapitre 45, le verset 9.
Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Assez, prince d'Israël, cessez la violence et les rapines, pratiquez la droiture et la justice, délivrez mon peuple de vos exactions, dit le Seigneur l'Éternel.
Ça nous rappelle ce que dit Amos, hein. Donc oui, ça n'a pas évolué beaucoup. Chez Habacuc aussi, au chapitre 1, verset 3.
Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles. Et la discorde s'élève.
On n'a pas un panorama très réjouissant. Hein, là, quand on entend les prophètes, on voit que le monde, on dit que le monde gagne en violence, mais on voit bien que non, c'était déjà le cas avant. Et là, le portrait qu'on nous dresse, c'est que les habitants, par leurs actions injustes, entassent des fortunes dans leurs maisons. Sans se rendre compte finalement qu'aux yeux de Dieu, eh bien, ce qu'il capitalise, c'est pas des richesses, ce sont des actes d'injustice. Lui, c'est ça qu'il voit, c'est pas le résultat. Et cela leur sera compté. C'est ce qui les perdra, et c'est ce que vont nous détailler les versets suivants. Hein. Donc, au verset 11, la sentence va tomber. Hein. Le Seigneur lui-même l'annonce. L'ennemi est bientôt là, qui va les encercler. Cet ennemi, eh bien, ce sera la Syrie. Littéralement, Dieu dit, on fera descendre de toi ta puissance. Donc, cette puissance dont tu es si fière et sur laquelle tu crois pouvoir compter, finalement, elle va s'écrouler. À la place de puissance, on peut entendre forteresse. Et donc là, c'est plus un concept, c'est quelque chose de tout à fait concret. Même les lieux où l'on se croit en sécurité, eh bien, ne vaudront rien face à l'ennemi qui s'annonce. Dès lors, comme le psalmiste, il ne reste qu'à s'en remettre à Dieu. Si vous le voulez bien, on va se prendre un petit temps comme ça pour inviter notre propre cœur et le cœur de chacun à chercher Dieu finalement. Alors, nous allons continuer, toujours chez le prophète Amos, au chapitre 3, le verset 12.
Ainsi parle le Seigneur. Tout comme le berger arrache de la gueule du lion deux pattes ou un bout d'oreille, ainsi seront arrachés les fils d'Israël, ces gens installés à Samarie, au creux d'un divan, au confort du lit.
Alors, c'est une curieuse parabole, me semble-t-il, que celle-là, oui. Parce que quand Le tout début, on se dit chouette, le berger va sauver les gens d'Israël. Le berger sauve ou arrache de la gueule du lion. On se dit ça y est, chouette. Et puis finalement, ce qu'il arrache, c'est plus grand chose. Et donc à la fin, on se dit non, ça va pas du tout. Et Dieu finalement se compare d'abord au berger qui rapporte les restes de l'animal dévoré au maître pour lui prouver son innocence, parce que ça aurait été trop facile. On pouvait dire, il y a 10 brebis qui ont disparu, et puis non, il fallait arriver à prouver. Donc on voit ça dans le livre de l'Exode, au chapitre 22, le verset 12. Tout est codifié dans la Bible. Donc.
Oui. Mais si l'animal a été dérobé chez lui, il sera tenu vis-à-vis de son maître à une restitution. Si l'animal a été déchiré, il le produira en témoignage, il ne sera point tenu à une restitution pour ce qui a été déchiré.
Voilà, donc on est Dieu finalement vient pour faire ce qu'il préconise. Amos compare ensuite donc Israël à l'animal dévoré, puisqu'il sera arraché de sa terre, de son confort, de sa sécurité. Et donc, on peut entendre que le peu qu'il restera du peuple plaidera pour l'innocence de Dieu contre la culpabilité du peuple lui-même. Hein. Finalement, c'est à cause de... Il n'a qu'à s'en prendre qu'à lui-même si tout ça lui est arrivé. Ce qui nous amène là à voir un Dieu qui est à la fois juge et parti. Alors, ça, on n'aime pas bien hein, quand même. Alors, je ne vais pas vous laisser dans une vision, une telle vision de Dieu. Il faut quand même savoir que même Amos ne va pas laisser le peuple face à une telle annonce. Et en différents endroits, on va en voir deux juste pour se rassurer un peu. Donc Amos va laisser une porte ouverte. Alors on peut aller voir au chapitre 5, le verset 15.
Haïssez le mal, aimez le bien, faites régner à la porte la justice. Et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph.
Voilà. Hein, donc on a eu... Ouf. Et puis au chapitre 9, verset 8...
Toutefois, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel.
Voilà, là aussi, il faut juste espérer de faire partie de ce qui ne sera pas détruit. Voilà, mais bon, vous voyez qu'on n'est quand même pas dans quelque chose de complètement fermé. Et donc, ceci pour quand même nous rassurer par rapport à ce qu'on vient de voir. Et puis on va continuer, donc là, Amos va s'en prendre à Bethel, donc on va voir ça, donc les versets 13 à 15 du chapitre 3.
Écoutez et témoignez contre la maison de Jacob, oracle du Seigneur Dieu, le Dieu de l'univers. C'est qu'au jour où j'interviendrai contre Israël à cause de ses forfaits, j'interviendrai contre les autels de Bethel. On cassera les cornes de l'autel et elles tomberont à terre. Je frapperai la maison d'été, puis la maison d'hiver. Les maisons d'ivoire disparaîtront et les grandes maisons crouleront. Oracle du Seigneur.
Alors, cette maison de Jacob, eh bien, on l'a déjà vu, hein, c'est un des noms utilisés pour désigner Israël. Et donc, on parle du royaume du Nord. Mais en même temps, quand on entend maison de Jacob, eh bien, on ne peut pas ne pas évoquer l'ensemble des 12 tribus hein, qui descendent du patriarche. Donc, la totalité du peuple d'Israël avant la séparation en deux royaumes. Le Dieu de l'univers, eh bien, c'est ce terme apparaît pour la première fois dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1, verset 3.
Chaque année, cet homme montait de sa ville à Shiloh pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ephni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel.
Voilà, donc ce dieu de l'univers, c'est aussi dieu des armées, enfin on a plusieurs traductions. Il apparaît, ce nom-là de dieu, ce qualificatif de dieu, apparaît plus de 280 fois dans le Premier Testament, donc c'est une des terminologies bien, bien connues, Sabaoth, donc, qu'on peut traduire, donc dieu des armées, mais alors de quelles armées s'agit-il? Les armées célestes, donc les anges, etc. Les armées d'Israël, c'est aussi possible, puisque quand un pays, quand une armée gagnait, ben, on considérait que Dieu... Mais ça a tenu longtemps, hein, ça nous rappelle des choses quand même, que Dieu était avec le pays qui gagne, etc. Donc, on n'est pas très au clair, ça peut signifier beaucoup de choses. La recherche la plus récente tend à nous faire entendre plutôt la dimension universelle de Dieu et de son action. Donc, c'est pour cela que la TOB, la traduction œcuménique biblique, parle de Dieu de l'univers. Hein, donc, cette dimension, Dieu de la totalité du monde, quoi, du monde existant. Et Bethel, donc, c'est le lieu, rappelez-vous, où Jacob avait élevé une stèle quand il avait fait ce fameux songe où les anges montaient et descendaient le long d'une échelle, voilà. Et donc, Bethel, c'est la maison de Dieu. Hein, donc, et après la séparation des deux royaumes, eh bien, un sanctuaire y a été construit pour contrer Jérusalem. Et donc, dans ce sanctuaire de Bethel se déroulaient des cultes nouveaux. Et donc, Bethel et Jérusalem étaient en opposition, finalement, au niveau cultuel. Les cornes de l'autel, eh bien, ce sont ces angles. Et les cornes, donc, sont considérées comme la partie la plus sacrée de l'autel. Alors, on trouve des tas de descriptions et des tas d'occurrences, hein, de ces cornes de l'autel. On peut aller voir, par exemple, dans le livre du Lévitique, au chapitre 16, les versets 17 à 19.
Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël.
Voilà, donc on voit comment ces cornes de l'autel sont un point particulier de l'autel et pour les sacrifices, etc. Mais l'autel donc était un lieu de refuge et tout particulièrement les cornes. On va voir ça dans le premier livre des Rois au chapitre 2, le verset 28.
Alors, le bruit en parvint à Joab qui avait suivi le parti d'Adonia, quoiqu'il n'ait pas suivi le parti d'Absalom. Et Joab se réfugia vers la tente de l'Éternel et saisit les cornes de l'autel.
Voilà. Donc, quand on tenait les cornes de l'autel, on était, c'était le lieu, on pouvait plus rien vous faire, quoi. Hein. C'était vraiment le lieu de refuge. Donc, si les cornes sont à terre, eh bien, même ce refuge est supprimé pour le jour du jugement. Hein, donc, on voit que c'est ça. Oui. Ça, quand même, c'est pas juste. On va abîmer l'autel, quoi. Hein, ça a une signification bien plus profonde que ça. Et donc, à partir de là, on assiste à une gradation de la punition divine. Donc, d'abord, il va s'en prendre aux maisons d'été, les maisons d'été qui sont donc des habitations légères. Ces maisons seront détruites. Puis, les maisons d'hiver, donc les maisons d'hiver qui sont construites en dur. Puis, les maisons luxueuses, dont les murs sont ornés de plaques d'ivoire. Hein, c'est ces maisons d'ivoire dont il nous parle. Par exemple, comme le palais que Akab avait construit, toujours dans le premier livre des Rois, au chapitre 22, le verset 39.
Le reste des actions d'Akab, tout ce qu'il a fait, la maison d'ivoire qu'il construisit et toutes les villes qu'il a bâties, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël ?
Voilà, donc ces maisons d'ivoire, c'est donc des choses très luxueuses. On couvrait les murs avec des plaques d'ivoire, vous imaginez. Et enfin, les plus grandes maisons crouleront. Alors, littéralement, ce seraient des maisons nombreuses, mais donc sous-entendu des maisons comptant de nombreuses pièces. Hein, donc, finalement, ce sera la dévastation la plus totale. Rien ne sera épargné, aucun lieu où on peut se mettre à l'abri, finalement. Alors, certains commentateurs expliquent qu'Amos n'est pas contre le luxe en soi, mais il s'oppose au fait que les coutumes sociales de l'ancienne Israël ont cédé le pas aux coutumes cananéennes. Et donc, une société initialement sans classe a laissé la place à une société qui est fondée sur l'injustice. Et donc, c'est bien ça qui est stigmatisé. Le luxe de certains s'édifie aux dépens des plus pauvres. Depuis que le monde est monde, hein, voilà, l'injustice sociale
la répartition des biens.
C'est ça, c'est ça. Ça nous rappelle des choses. ça nous parle aussi de notre temps. Et en fait, c'est cela donc, hein, qu'Amos pointe du doigt. C'est cela qui justifie la colère de Dieu, et c'est cela qui conduira à la ruine du pays et à la déportation des élites. Amos n'est pas le premier du tout, hein, à dénoncer le péché à l'intérieur du peuple, mais avant lui, c'était certains coupables qui étaient pointés du doigt, tandis que là, manifestement pour Amos, tout le peuple est coupable. Alors là,
ça pose question.
Eh bien oui, ça pose tout à fait question, tout à fait, tout à fait. Alors, je n'ai pas de réponse à ça. Je peux me dire qu'effectivement, on est un peu tous responsables de la façon dont le peuple fonctionne. Bon, alors, c'est visible dans nos démocraties, puisqu'on est censé voter pour les... Mais d'une manière ou d'une autre, il y a toujours des moyens d'action pour éviter d'être victime de... Si on se serre les coudes, etc., on peut penser à Gandhi et ses mouvements non violents. Sans doute y a-t-il des moyens de faire pour que l'oppression cesse, même quand on est les plus faibles de ceux qui sont opprimés, avec la solidarité, avec... Je n'ai pas vraiment de réponse, mais c'est ce que ça m'évoque finalement.
Oui, c'est problématique, en effet.
Oui. Et bon, cette rigueur, eh bien, on va en prendre la mesure, hein, au fur et à mesure de notre étude d'Amos. Hein, finalement, pour Amos, pour défendre son droit, mais qui est aussi le droit de l'homme, Dieu est capable d'aller jusqu'à sacrifier son peuple. Hein, ça fait un peu peur, hein, de voir ça. Donc, ce sera intéressant de voir jusqu'où il pousse ce raisonnement. Du coup, nous ne pourrons qu'entendre, au fil de notre étude, comme on a commencé à le faire, l'actualité du message, hein, qui stigmatise l'injustice et qui pointe la responsabilité de chacun. On voit combien on peut prendre ça à notre compte pour aujourd'hui. Alors, peut-être allons-nous relire toute cette partie, donc au chapitre 3, les versets 3 à 15, donc dans une autre traduction que celle-là.
Alors, la traduction en français courant. Deux personnes font-elles route ensemble sans s'être d'abord rencontrées? Le lion rugit-il dans les bois s'il n'a pas trouvé une proie? Et gronde-t-il dans sa tanière s'il n'a rien attrapé? L'oiseau tombe-t-il dans un piège sans un appât qui l'attire? Un filet se referme-t-il sans avoir fait de prise? La trompette retentit-elle comme alarme dans une ville sans inquiéter tout le monde? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que le Seigneur en soit l'auteur? À vrai dire, le Seigneur Dieu ne fait rien sans révéler ses intentions à ses serviteurs, les prophètes. Quand le lion rugit, qui n'aurait pas peur? Quand le Seigneur Dieu a parlé, qui refuserait de transmettre son message? sur les toits des belles maisons d'Ashdod et les belles maisons d'Égypte, lancez cet appel. Rassemblez-vous sur les hauteurs autour de Samarie pour constater les nombreux désordres et l'oppression qui y sévissent. Le Seigneur dit en effet, les gens de Samarie ne savent pas ce qui est une action honnête. Ils entassent dans leurs belles maisons tout ce que leur rapporte la violence et le pillage. C'est pourquoi Samarie, voici ce que le Seigneur Dieu déclare. L'ennemi encerclera le pays, il abattra tes fortifications, il pillera tes belles maisons. Voici ce que déclare le Seigneur. Quand le lion a pris un mouton, le berger arrache de sa gueule deux pattes ou un bout d'oreille. Ainsi en sera-t-il pour les Israélites qui vivent à Samarie, au creux d'un divan ou sur les coussins d'un lit. On n'en sauvera que des débris. Écoutez, dit le Seigneur Dieu, le Dieu de l'univers, et transmettez cet avertissement aux descendants de Jacob. Le jour où j'interviendrai pour punir les crimes d'Israël, j'interviendrai contre les autels qui se trouvent à Bethel. Leurs angles seront cassés et tomberont à terre. J'abattrai les maisons d'hiver aussi bien que les maisons d'été. Fini les résidences décorées d'ivoire. En ruine ces vastes logements, dit le Seigneur.
Eh bien, cette traduction est parlante aussi. Hein, on je reçoit trouve ça. Effectivement que... On reçoit et ça oui. 5 sur 5. Alors, ben on va peut-être entendre encore un chant de gospel avant de nous séparer.
To care.
Eh bien, voilà, chers amis auditeurs et auditrices, que cette émission s'achève. Mais avant, j'ai une petite annonce à faire passer. C'est au sujet des cultes. Il y aura un culte à Ghisonaccia-Gare le samedi 28 à 15h. Il y aura aussi un culte à l'île Rousse le lendemain, c'est-à-dire le 29 à 18h. Et puis enfin, comme d'habitude, il y aura un culte à Bastia et puis un culte à Ajaccio à 10h30. Voilà, Bastia, c'est dans l'église, voyons.
Du Sacré-Cœur.
Merci Marie-Odile. Et Ajaccio, la chapelle Saint-Soucy pour Napoléon. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Je n'oublie pas de saluer Nicole qui est à la technique. Et puis ben Marie-Odile, quant à nous, bien, nous allons continuer sur ce même chemin avec plaisir.
Absolument, et nous retrouver la semaine prochaine.